15h. De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui dans cette émission est l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Mathias.
Votre actualité, si je puis me permettre, c'est la parution de catéchèses. C'est régulièrement, depuis quelques années, que vous proposez des catéchèses. Et cette année, vous abordez la question politique. 6 catéchèses sur la politique. Nous donnerons toutes les informations pratiques à la fin de ce rendez-vous pour savoir comment se les procurer. Mais ma première question, Monseigneur Brouvet, c'est celle de la légitimité de s'exprimer sur un tel sujet. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire des catéchèses cette année sur la politique, alors qu'on aura envie de vous dire, les échéances électorales sont passées?
Oui, alors j'ai fait des catéchèses sur la politique précisément parce que les échéances électorales sont passées et qu'on peut parler politique après les élections. Je rappelle pour les auditeurs que la politique, c'est d'abord... le service de la police, c'est-à-dire de la cité. Et donc, c'est quand on parle politique dans ces catéchèses, c'est une acception assez large pour dire comment, au fond, nous nous engageons, comment nous participons à l'édification de notre société, de la société dans laquelle on vit. Il m'a semblé que c'était précisément le bon moment pour parler de tout cela à tête reposée.
Est-ce que c'est la vocation d'un baptisé, de s'intéresser à la politique ?
La vocation des baptisés, c'est de s'engager pour la construction du monde, pour la participation au bien commun. Oui, un baptisé, il est appelé à cela. Il est appelé à s'engager pas seulement en politique, par exemple, dans une équipe municipale, mais la politique au sens large, c'est comment est-ce que moi, dans ma vie sociale, en élevant mes enfants, en bâtissant une famille, en continuant ma vie professionnelle, je participe, disons, à la manière dont nous vivons en commun.
Donc vous diriez que s'engager en politique pour un chrétien, ça n'est pas simplement s'engager dans une élection précise, c'est un engagement plus large que cela.
Oui, on a fermé un petit peu le terme politique, parce que quand on parle politique, on a un peu dans l'esprit la politique politicienne, un tel et un tel, tel parti contre tel parti. Moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on réfléchisse aux fondamentaux de notre vie sociale, de notre vie politique, comment est-ce qu'un chrétien, il peut, à la lumière de l'Évangile, réfléchir à toutes ces questions. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Pourquoi nous sommes ensemble? Est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment est-ce que nous pouvons mettre plus de justice, plus de paix, plus de démocratie? Voilà, toutes ces questions auxquelles il me semble bon de réfléchir cette année.
On a bien compris la légitimité, entre guillemets, pour un baptisé de s'engager. S'agissant de l'Église avec un grand E, et vous l'incarnez, Monseigneur Brouvet, comme évêque. Quelle est la légitimité de l'Église pour s'exprimer sur la politique?
Alors d'abord, je crois qu'il est très, très important de voir que l'Église n'a pas de désir de prendre le pouvoir, ni de dicter aux élus ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire, évidemment. Je crois que le rôle de l'Église, c'est une participation à la réflexion politique pour aider au discernement. Nous avons des choses à dire sur la place de la personne humaine, sur la recherche du bien commun, dans la justice. Je crois que l'Évangile nous donne quelques fondamentaux, un regard sur la personne, un regard sur la société, qu'on puisse directement dans l'Évangile, et puis qui nous fait réfléchir, qui nous donne quelques points de repère pour nous dire, au fond, qu'est-ce que je veux faire de la société dans laquelle je vis et comment est-ce que je peux m'y engager.
Donc l'Église ne constitue pas une force politique en
l'Église
tant que
L'Église ne constitue pas une force politique et l'évêque n'est pas un homme politique. Alors là c'est le problème de la prise de parole des évêques. C'est-à-dire quand un évêque prend la parole, il a jamais l'intention de dire ce pourquoi il faut voter. Mais simplement, il rappelle, par exemple, le souci du plus faible, la nécessaire recherche de la justice... le fait d'être un pays ouvert, qui puisse être accueillant. Donc, tiré de l'Évangile, l'évêque prend la parole dans l'espace public pour dire voilà, ce qui lui semble important pour notre vie sociale.
Et sur l'objectif de l'Église dans une telle prise de parole, est-ce que ce pourrait être finalement que des normes religieuses s'imposent comme des normes politiques, sociales, que sais-je ?
Non, parce que les normes religieuses, elles n'ont pas du tout vocation à s'imposer dans la vie sociale, dans la vie politique. Et c'est l'Évangile que nous devons avoir comme lumière, comme point de référence, comme repère. Et à partir de cela, l'Église a réfléchi à ce qu'était la vie en société, à partir de l'Évangile, à partir de son expérience, pour éclairer les questions humaines, les questions du travail, les questions de la démocratie, les questions de la liberté, les questions de la propriété individuelle, les questions de la subsidiarité. À partir de l'Évangile, à partir de son expérience et de sa sagesse, l'Église a voulu donner un certain nombre de points de discernement. Et elle ne se prive pas justement de les faire connaître. Alors ensuite, c'est aux élus et aux personnes qui sont en responsabilité de s'y intéresser ou pas, d'en faire son miel ou pas.
La grande objection lorsque l'Église s'exprime sur les questions politiques, c'est la question de la laïcité. Que diriez-vous là-dessus ? Parce qu'il faut l'entendre, cette objection.
Oui, évidemment. La laïcité en France, c'est la laïcité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît officiellement et ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que les religions, les cultes, non pas dépendant de l'État, voilà, dépendant des personnes particulières. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le culte est une affaire purement privée, ou la religion est une affaire purement privée. En tout cas, ce qui est important de bien distinguer, c'est que si l'État est laïque, la société civile, la société vous et moi, les gens qui habitent autour de nous, eux, ils n'ont pas cette connotation. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Et personne ne peut dire qu'une société doit devenir laïque. Donc l'État est laïque, c'est-à-dire l'organisation, hein, cette structure qu'on appelle l'État. Mais la société civile, elle est traversée par des courants religieux, chrétiens ou non. Et à l'intérieur de cela, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice commun. Au contraire, je crois que c'est même une nécessité. Et je pense aussi que les religions, justement, en donnant leur opinion, en donnant leur avis, en aidant au discernement, parfois en interpellant, le pouvoir politique joue pleinement son rôle. Et le pouvoir politique, lui, est enrichi de l'apport des religions, de l'apport de la réflexion des religions. Je crois que cet enrichissement entre le pouvoir politique et des autorités spirituelles est extrêmement fécond.
Dans ces catéchèses, ces six catéchèses que vous proposez à la lecture sur la politique, vous abordez la pensée sociale de l'Église. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette pensée sociale de l'Église, c'est du concret, Monseigneur Brouvet ?
Oui, la pensée sociale de l'Église, elle a été commencé à être élaborée à la fin du XIXe siècle face aux questions rencontrées par l'industrie naissante, par le problème ouvrier. Et donc, c'est la lumière de l'Évangile qui est portée sur ces questions. Et par exemple, la doctrine sociale, l'enseignement social rappelle la nécessité d'un juste salaire pour les ouvriers, rappelle le droit à la propriété, etc. Bon, des choses qui sont...
Oui, c'est du concret.
C'est du concret, c'est évident pour nous, ça ne l'était pas à la fin du 19e, mais la réflexion se poursuit. Des encycliques sociales, il y en a toujours, jusqu'à l'encyclique Laudato Si du pape François sur l'écologie, mais le pape François dit bien que c'est une encyclique sociale. Ça n'est pas un texte simplement sur l'écologie, parce que pour lui, l'écologie est une affaire d'humanité aussi. Il y a une écologie humaine. Et donc, ça fait partie de ce développement de la doctrine sociale de l'Église à la lumière de l'Évangile et de la tradition.
Six catéchèses sur la politique, signé Monseigneur Nicolas Brouvet. Cet ouvrage est disponible par le site internet du diocèse de Tarbes et Lourdes, catholique65.fr. Il est disponible par un bon de commande, 3 euros, donc pour cette modique somme, plus bien entendu les frais de port. Nous marquons une courte pause dans cette émission.
Radio Présence à Moissac, 93.3. Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Oui, et nous sommes heureux que vous nous accompagniez, Monseigneur Brouvet. Et vous venez de publier des catéchèses sur la politique. Alors, nous avons décidé, d'un commun accord, hein, il n'y a pas de surprise. Alors, je m'appuie sur une de vos catéchèses où vous citez un discours de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, qui, le 20 janvier 1961, disait... « Chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors on se dit, mais Mgr Brouvet cite John Fitzgerald Kennedy. Est-ce à dire que ça fait partie de la pensée sociale de l'Église, ce qu'on vient d'entendre?
En tout cas, c'est une bonne formule. Ça n'en fait pas partie, mais c'est une bonne formule, parce qu'il renverse. Hein, on peut très vite avoir l'impression que... Au fond, l'État est une sorte de superstructure qui veut nous procurer des droits, des subventions, des prestations sociales, etc. On a droit à, il faut toujours réclamer. Et on est un peu, on peut être très vite, vous voyez, dans la posture de celui qui va demander des choses pour lui. Et je crois que le président Kennedy, il avait vu cela, il s'est dit, mais renversons la vapeur. Et je crois qu'il faut la renverser avec lui en se disant, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons, comment nous pouvons nous engager pour le service de notre société? Qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Et donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui se diront, mais moi, je ne suis pas élu, je ne peux rien faire. Je crois qu'on peut tous faire quelque chose. Tous faire quelque chose parce que, par exemple, on peut évidemment s'engager dans une équipe municipale. Moi, je pousse beaucoup tous ceux qui hésitent, qui disent, ah, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Je dis, bah oui, on a besoin de gens sur le terrain pour s'occuper du bien commun, de la commune, de la voirie, de tout ce qui fait la vie de la commune, du village, de la ville, du quartier. Bon, moi je trouve qu'on peut s'engager, mais on participe aussi à la construction de la société en élevant une famille, en élevant ses enfants, en se mariant par exemple. Le mariage c'est un acte à la fois privé parce qu'on aime quelqu'un, mais c'est aussi un acte social. Je vous explique pourquoi. Quand dans un village ou une petite commune, il n'y a plus d'enfants parce que il y a personne qui s'est marié récemment, donc on va fermer la crèche, on va fermer l'école, on va fermer le magasin aussi. Ça veut dire que, au fond, le mariage, fonder une famille, ça intéresse aussi très très concrètement ceux qui habitent tout autour. Donc on peut se dire, moi j'aime. Un tel ou une telle, c'est une affaire purement privée, je vois pas pourquoi j'irais institutionnaliser mon mariage. Mais en fait, on se rend compte, si on réfléchit un petit peu, par exemple, un maire d'une commune, il peut être très très content qu'il y ait une jeune famille qui s'installe là, qui consomme là, qui paye ses impôts là. Et voilà comment, tout simplement, un mariage, un amour privé qui porte 2, 3, 4 enfants, tout d'un coup, ça intéresse quand même la vie du quartier. Et donc, dimension sociale de notre existence. Je crois que ça, c'est très important.
Vous avez prononcé tout à l'heure cette expression « bien commun ». On est quand même dans une société où chacun défend un peu ses intérêts. On sent qu'il y a un choc là qui peut se passer entre ce que vous appelez le bien commun et puis l'intérêt particulier, mon intérêt à moi. Comment vous voyez cette tendance, choc même?
Ben oui, je crois que ça, c'est une question qui est crucial, qui est fondamental, tout simplement. D'abord, parce que alors j'explique dans mes catéchèses que nous avons une vocation à vivre en société. L'individu a une vocation à vivre en société. On n'est pas fait pour vivre seul. D'ailleurs, c'est un terme qui apparaît dès le début dans la Genèse. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas fait pour vivre isolé, pour vivre dans la solitude, pour vivre dans notre quant à soi. On est fait pour vivre les uns avec les autres. Et c'est dans l'échange... qu'en fait, on s'enrichit. On voit bien hein, que les rapports humains, en fait, c'est un enrichissement incroyable. Et donc, la vie en société, ce n'est pas un obstacle à ma liberté. La vie en société n'est pas un obstacle à la manière dont j'ai envie de construire ma vie. Mais au contraire, je construis ma vie avec les autres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question du bien commun. Moi, ce qui m'intéresse dans la question du bien commun, c'est la recherche du bien. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce qui est bien pour notre communauté, par exemple pour notre village, pour notre commune, ou pour notre pays, ou pour notre département, ou bien pour notre famille. Qu'est-ce qui est bien pour le groupe dans son entier, et qui est bien pour chaque personne aussi. Et donc, c'est une recherche. Le bien commun, c'est d'abord une recherche, c'est d'abord une réflexion. On se pose et on se dit, qu'est-ce qui est bien pour le groupe dans son entier et pour chacun des individus. Il ne faudrait pas que la recherche du bien commun soit à chaque fois aux dépens des individus. L'expérience collectiviste au XXe siècle, c'était ça. C'était qu'au fond, on peut sacrifier les individus du moment que ça profite à la société. Bon. Le problème de l'intérêt général, vous en parliez, c'est que l'intérêt général, c'est un peu la négociation entre des intérêts particuliers. Et alors, comment passer de simplement la recherche de mon petit intérêt qui va se combiner au vôtre, et puis on va faire une sorte de salade où chacun va essayer d'y mettre un petit peu du sien pour qu'on n'y perde pas trop. Le bien commun, c'est non. Qu'est-ce qui va être bien? Qu'est-ce qui va nous faire grandir? Qu'est-ce qui va faire que les personnes et les groupes vont grandir, dans plus de justice, dans plus de droits, dans plus de paix, dans plus de démocratie, par exemple. Qu'est-ce qui va faire qu'ensemble, on va grandir? Et donc, je crois que ce qui m'intéresse, moi, en particulier, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se met autour d'une table quand on est dans une société particulière pour se dire qu'est-ce qui est bien pour nous tous et qu'est-ce qui est bien pour chacun. La recherche du bien commun, c'est un vrai travail qui dépasse largement la question de l'intérêt général, parce que la question de l'intérêt général, si vous voulez, ça va être tout de suite une majorité contre une minorité. Or, on ne peut pas bâtir une société simplement comme ça, en se disant qu'est-ce qui va profiter au plus grand nombre. Parce que là, on est dans la loi du plus fort. Et donc, voilà pourquoi il va falloir qu'on essaye de mettre ensemble la question de du bien de tous, du bien du groupe, et puis du bien de chaque personne. Je donnais un petit exemple tout simple que tout le monde peut comprendre. C'est que dans une vie, dans une vie de famille, on prend des repas en commun. Et les repas en commun, ça veut dire que c'est à la même heure. Évidemment que chacun pourrait avoir des rendez-vous et ne pas être au repas, et l'un dîner à 18h30, tandis que l'autre vient à 20h. Mais l'intérêt du groupe qui est la famille, c'est en fait qu'on prenne les repas ensemble, pour se parler, pour se prendre des nouvelles, pour voir comment l'un et l'autre va, etc. C'est-à-dire qu'il y a un bien du groupe, il y a ce qui va faire grandir le groupe, même si jamais chacun des individus doit faire un petit effort pour arriver une demi-heure en avance ou une demi-heure en retard, chacun, au fond, va s'y retrouver. Chacun va se retrouver dans cette vie de famille qui grandit, et la famille va en être augmentée.
Une de vos catéchèses, Mgr Brouvet, est intitulée « Un regard sur l'homme dans sa fragilité ». Fait irruption là, dans notre discussion, la question de la solidarité. Est-ce que vous diriez que cette démarche de solidarité, cette solidarité, c'est comme une sorte de ciment fondamental, et que c'est au nom de cette solidarité que la société doit s'occuper des personnes fragiles? Voilà, ça fait partie de l'intérêt de la société.
Oui, je crois qu'une société comme une cordée en montagne, on est dans les Hautes-Pyrénées, et donc ça tout le monde le sait, comme une cordée en montagne, il faut qu'on avance au rythme du plus faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire le plus faible, il ne peut pas suivre, il n'a qu'à rester sur le bord du chemin, et nous on continue la route comme s'il n'existait pas. Et donc ça demande la solidarité, en fait c'est cela, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde suive, pour que tout le monde avance, et qu'il n'y ait pas tellement de distance entre le premier de cordée et puis le dernier, que finalement le dernier, n'en pouvant plus, se sente abandonné et puis reste au bord du chemin. Le regard sur la personne fragile, c'est précisément cela, c'est que nous regardons les plus pauvres et les plus fragiles, nous prenons en compte cette fragilité et nous nous intéressons à tous dans la société, y compris l'enfant à naître, y compris la personne en fin de vie, y compris la personne handicapée. C'est une très grande responsabilité que nous avons de dire, en fait, nous formons une communauté avec tous ceux qui en font partie, y compris ceux qui sont les plus fragiles.
Donc vous étendez la question de la solidarité à l'ensemble de ces sujets qui ont traversé les débats de société ces derniers temps.
Exactement. Beaucoup de débats de société nous parlent de cela. Et donc il y a des enjeux qui sont cruciaux. Parce que est-ce que on peut éliminer un enfant parce que on ne sait pas très bien comment l'accueillir? Est-ce que on peut abréger la vie d'une personne en fin de vie parce que on pense qu'elle va souffrir et que ça nous est insupportable à nous et que on ne sait pas comment elle va vivre cela? À côté de ça, oui, il y a des choses extraordinaires. Qui existe pour accueillir les enfants qui ont un handicap, pour accueillir les enfants qui sont inattendus par leurs parents, pour accompagner les personnes dans leur fin de vie en respectant la vie qui est sacrée jusqu'à la mort naturelle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de très belles expériences, beaucoup de très belles réalités qui existent et qui nous aident à comprendre comment, au fond, nous devons prendre soin des personnes les plus pauvres. Ça, c'est un devoir de notre... Et puis c'est la dignité et l'honneur de notre communauté, la communauté nationale, la communauté communale, la communauté familiale. C'est l'honneur qu'elle s'occupe de tous ceux qui vont moins bien que les autres, de tous ceux qui ont du mal à avancer, de tous ceux qui sont porteurs de handicap, de tous ceux qui sont malades. Je crois que l'homme est suffisamment généreux, nous sommes suffisamment généreux pour inventer des solutions. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que nous pouvons inventer des solutions pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que ne pas laisser non plus la préoccupation des personnes les plus fragiles à leur entourage immédiat. Parce que parfois l'entourage immédiat ne peut pas. On ne peut pas forcément accueillir un enfant parce que ça... On n'y arrive pas, on n'en a pas les moyens, mais comment la communauté prend cela en compte et comment est-ce qu'ensemble, nous disons, on va s'occuper de tous. Et vous voyez, je dis ça parce que c'est d'abord le regard de Jésus qui nous éclaire là-dessus et qui nous pousse. Le regard de Jésus sur les plus pauvres, c'est ça qui nous motive. Et c'est là où je pense que des chrétiens ont quelque chose à donner à la vie sociale. C'est parce qu'ils ont le regard de Jésus, ils ont le regard de l'Évangile. Et ils peuvent comprendre ces belles choses, ce qu'on dit depuis le début, c'est nous sommes faits pour la vie sociale, c'est-à-dire pour la vie en communion avec les autres. Nous sommes faits pour nous occuper des plus pauvres. Voilà. Et ça, c'est l'Évangile qui nous habite et qui nous fait rappeler cela à tous nos concitoyens.
Ce que vous venez de dire là, vous l'avez écrit dans ces 6 catéchèses sur la politique. Donc vous voyez, la politique nous mène loin dans la réflexion.
Oui.
6 catéchèses sur la politique proposées par Mgr Nicolas Brouvet, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Si vous voulez vous procurer ces catéchèses, au prix modique de 3 euros, il y a un bon de commande en téléchargement sur le site internet du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et sinon, elles sont disponibles à la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes, 51 rue de Trénès. Mgr Nicolas Brouvet, merci pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes évêque de Tarbes-et-Lourdes. Au revoir.
Merci Mathias.
Présence, présence.
De passage à Lourdes.
Présence à Souillac, 104.8.
Gloria, gloria, gloria.
toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com.
Entier.